Qu'est-ce qu'on peut bien enseigner sur la Bible qu'on n'ait pas déjà découvert? Eh bien, pas mal de choses, ne serait-ce que parce que chaque lecteur ou auditeur de la Bible l'entend dans sa propre culture. Chacun reçoit la Bible suivant sa culture et ses capacités, et c'est pour cela que l'Église a toujours souhaité partager ses découvertes à travers les homélies, le magistère officiel et aussi les cours des enseignants d'exégèse biblique. Le père Jean-Pierre Sonnet, jésuite belge, enseigne la théologie biblique de l'Ancien Testament à l'université grégorienne avec un amour particulier pour les aspects littéraires de l'exégèse. Il nous partage aujourd'hui comment il voit la Bible depuis Rome.
Il y a d'abord pour moi un point essentiel, c'est que Rome est une ville biblique, peut-être la dernière ou la plus occidentale à être entrée dans la Bible, puisque avec la fin des Actes des Apôtres, on suit Paul jusqu'à Rome, où il est certes en résidence surveillée, mais néanmoins il annonce la parole. Rome a toujours été une caisse de résonance à l'époque avec l'Empire romain, mais aujourd'hui, et notamment à travers aussi les lieux d'enseignement à Rome, une caisse de résonance extraordinaire en matière biblique.
Et quelles sont les nouveautés en exégèse?
Il y a une trentaine d'années, un nouveau chapitre s'est écrit dans l'exégèse et il est lié à l'apport de chercheurs américains ou israéliens notamment, qui proviennent eux-mêmes du monde de la littérature comparée. Pour moi, ce sont des grandes figures, peut-être les derniers humanistes. Ce sont des chercheurs capables de passer de l'épopée de Gilgamesh à Homère, à la Bible, à Shakespeare, à Dante, à Garcia Marquez, mais aussi d'excellents lecteurs de la Bible et qui nous ont appris à relire le récit comme récit, dans sa force de récit, à relire le poème comme poème, à relire le discours comme discours, en adoptant des procédures liées à la théorie littéraire moderne, mais en retrouvant aussi des réflexes aussi anciens qu'Aristote. Et en même temps, je crois que la Bible a l'art de refaçonner les outils, les concepts qu'on lui applique. Le trajet va dans les deux sens.
Vous pourriez me donner un exemple pour illustrer?
Dans les cas de théophanie, par exemple, les manifestations de Dieu, le lecteur a un temps d'avance sur le personnage dans le monde du récit. Le lecteur, mis au parfum par le narrateur, sait déjà que c'est le Seigneur ou l'ange du Seigneur qui apparaît à Moïse dans le buisson ardent, par exemple. Tandis que Moïse, dans le monde du récit, doit encore déchiffrer ce qui lui arrive à partir des indices qu'il a. Et c'est ce qu'on appelle un cas d'ironie dramatique où le lecteur a un temps d'avance, il est au balcon, si on veut, du récit, de la scène, mais il vient toujours dans la vie un moment où nous sommes nous-mêmes confrontés aux signes que Dieu nous fait.
Est-ce que vous avez un exemple de texte biblique où justement l'approche narrative a fait un déclic pour vous?
J'aime revenir à l'histoire de David, notamment la manière dont elle s'amorce, parce que c'est extrêmement puissant au niveau narratif. Le récit met en orbite deux personnages évoluent l'un autour de l'autre, qui sont tous les deux porteurs d'un secret. Saül, le roi, est porteur du secret de sa destitution. Dès le chapitre 13 du premier livre de Samuel, le prophète Samuel lui a fait comprendre qu'il a perdu la faveur de Dieu et qu'il n'est plus roi aux yeux de Dieu. Mais Shaoul se garde bien de divulguer ce secret à la cour. David, de son côté, il est le porteur du secret de son onction, qui s'est faite dans le cercle de la famille. Donc nous avons deux personnages porteurs d'un secret qui évoluent l'un autour de l'autre, et ce qui est une structure narrative extrêmement puissante. Henry James, dans beaucoup de ses romans, fait justement jouer cette puissance du personnage porteur d'un secret. Ici, nous en avons deux qui sont porteurs d'un secret lié au choix de Dieu.
Mais alors, du coup, c'est important pour vous le rapport entre Bible et littérature?
Oui, au fond, moi, je serais le plus malheureux des hommes si la révélation du Dieu vivant s'était faite dans une littérature de série B, une littérature de hall de gare. Non, grâce à Dieu, elle s'est faite dans une littérature de série A, grand A, une littérature de très haut niveau qui requiert le meilleur de nous-mêmes, de notre imagination, de notre mémoire, de notre intelligence. Il y a vraiment un art du récit biblique, un art de la poésie biblique. Encore faut-il que nous y entrions.
C'est comme ça, en fait, finalement, que le texte biblique peut être sujet de méditation, de prière. C'est parce qu'il a cette grande qualité littéraire.
Aussi, bien sûr. J'aime dire que si on veut une théologie plate, sans relief, eh bien faisons l'économie de l'épaisseur du récit, de l'épaisseur du poème. Si on veut amorcer, développer une théologie qui ait du relief, eh bien qu'on entre dans les tours et les détours du récit, dans le relief de la poésie, de même dans l'expérience spirituelle.
Et sur le rapport du texte biblique à la poésie?
Je suis de plus en plus frappé par le fait qu'il y a des aspects du mystère de Dieu qui ne peuvent se dire que narrativement dans le récit, notamment l'intrigue et l'intrigue des intrigues qui est ce rapport de la liberté de Dieu et de la liberté des hommes, problématique essentiellement narrative, mais d'autres aspects de Dieu qui ne peuvent se dire que poétiquement. Il y a, grâce à Dieu, des livres poétiques dans la Bible, qu'on songe aux psaumes, aux cantiques des cantiques, mais également dans le récit biblique, les personnages, lorsqu'ils sont au comble d'une émotion, d'angoisse ou de joie, ils deviennent tous poètes. Enfin, tous, beaucoup en tout cas. On connaît le cantique de la mer, après la traversée de la mer Rouge, le cantique de Moïse, le cantique de Anne, le psaume de David, dans le livre de Samuel, le psaume de Jonas, etc. Sans parler bien sûr du Magnificat ou du Benedictus dans l'évangile de Luc. Et là, il y a d'autres aspects de l'intervention de Dieu qui sont manifestés comme seule la poésie peut le faire. L'intensité de notre histoire lorsqu'elle est visitée par Dieu.
Mais est-ce qu'en ce sens-là, on pourrait dire que la Bible nous raconte des histoires?
Elle met en œuvre, bonne question, un art du récit, ou un art du poème, qui, pour une part, s'inscrit dans la grande tradition narrative de l'humanité, une littérature de série A, j'ai dit, en même temps refaçonne cette tradition littéraire ou cette tradition poétique de manière particulière, mais d'autre part, il ne faut pas oublier que cet art narratif, il est mis au service d'un projet historiographique, donc de raconter l'histoire, donc des histoires pour raconter l'histoire. Une histoire fondatrice, celle d'Israël et des nations, lorsqu'Israël et les nations rencontrent le projet de Dieu, ou Israël et les nations dans le Nouveau Testament, lorsque Israël et les nations rencontrent le Messie de Dieu.
Pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi.